1, 2, 1, 2. Et deux mesures calmes, comme écho. Encore une fois.
Le mot minimalisme ne plaît pas à tout le monde, pas plus que le mot répétitif.
Il faudra se garder d'enfermer nos invités dans une définition aujourd'hui, mais puisque c'est Daniel Coe qui a longtemps œuvré pour la connaissance de différentes musiques sur France Culture qui le dit, eh bien on lui laisse ce mot-là de minimaliste. Avec nous dans les studios ce soir, Charlemagne Palestine, artiste et performeur, invité du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, qui vous consacre une exposition qui court jusqu'au 19 novembre 2017. Je dis exposition, mais c'est aussi concert, film, performance, tout ceci pour retracer le parcours de celui qui se plonge dans l'instant, un maximaliste, hein, crois que vous préférez, je crois, le mot de spontanimaliste, Charlemagne Palestine.
Oui. Oui. Oui.
Oui, bah c'est très bien pour une œuvre qui est pleine de résonance, mais aussi de peluche. Je dis ça parce que vous êtes venu avec vos valises rouges qui en sont pleines. On parlera de ces nounours qui vous accompagnent partout, mais aussi de l'impact de la musique sur les corps, à commencer par le vôtre, mais aussi sur celui de Mario Batkovic, qui est à vos côtés, le compositeur et accordéoniste qui signe un disque solo aussi radical qu'entêtant. Il jouera deux pièces ici dans les studios de France Culture, et puis on l'entendra puisque ses propos seront traduits par Chloé Billon. Au mi-temps de l'émission, vous entendrez le son Magique avec Vincent Théval, c'est le rédacteur en chef. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Mathieu.
Rédacteur en chef du magazine Magique, qui a pensé, oh, comme par hasard, à Thurston Moore. Et il se trouve que c'est le musicien qui fait la couverture du magazine Magic et que vous connaissez bien, Charlemagne Palestine. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Mais on va commencer par une de vos pièces, Charlemagne Palestine. Une pièce, vous êtes ici au piano.
Thank you.
et la résonance est très importante. Charlemagne-Palestine, une des quatre manifestations sur six éléments. C'est l'une des pièces qui est souvent citée quand on parle de votre travail, Charlemagne-Palestine, une pièce éditée, enregistrée en tout cas en 1974. Vous vous souvenez plus de l'année où vous l'aviez enregistrée. Votre musique, est-ce qu'elle est faite pour finir sur un disque, Charlemagne-Palestine?
Vous avez dit non, mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a les gens qui connaissent maintenant ma musique que par disque. Et ça, certainement, il y a moins physique, moins tactile, parce que je suis aussi une performeur, j'ai même des phénomènes acoustiques, résonance, etc. C'est plus fort si vous êtes sur place quand je suis en train de faire. Mais en même temps, maintenant, j'ai presque 40 disques CD et vinyles qui a sorti. Et je peux dire qu'au moins la moitié sont vraiment effectives sans me voir. Finalement, comme je suis, quand je présente, c'est comme un rituel spécial. C'est mieux si jamais vous pouvez me voir live.
Ah ben oui, ça je vous le confirme, c'est vraiment mieux. On a pu vous voir cette semaine.
Parce que vous avez m'écouté hier soir, par exemple.
Voilà, on pouvait vous entendre au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Et pour décrire ce que vous appelez le cérémonial, peut-être, le piano est recouvert de rubans de couleurs, de tissus, de foulards, plein de couleurs comme ce que vous portez aujourd'hui. Et puis, vous êtes entouré, comme toujours, accompagné de peluches, de nounours.
Je crois que justement... Des divinités, je peux faire le terme, mais ok.
Est-ce que ce sont des fétiches, Charlemagne-Palestine?
Certainement, oui. Ça, je préfère le mot fétiche que juste nounours. Nounours, c'est un jouet des enfants, et un confident des enfants, et un ami pour des enfants, ce qui n'est pas mal déjà. Pour moi, il y a énormément de différents contextes, possibilités, qui aussi la relation avec l'âme des animaux. Je explose l'idée d'un nounours ou un jouet en plus.
Par exemple, sur la couverture de ce disque de 74, Four Manifestations on Six Elements, l'illustration, c'était un nounours, c'est Blind Monkey.
Oui.
Qui il est ce Blind Monkey? Parce qu'il y a aussi, on peut le voir dans l'exposition qui vous est consacrée en ce moment, il y a un singe, c'est pas le même, qui est très important, visiblement, puisqu'il est au centre de ce qui semble être une crypte ou un hôtel.
Il est une de mes êtres sacrés. Il est toujours chez nous, il n'est pas à vendre, mais il n'est pas un objet d'art à vendre. Il est un membre de ma tribu, si on peut dire. Moi, je suis un membre de son tribu, peut-être.
Ces fétiches, ils peuvent être doués de paroles, hein. On le comprend, parce que par exemple, il y a un petit livre qui vient de paraître aux Presses du Réel de Marie Canet, où elle s'entretient avec vous, Palestine, prénom Charlemagne, Meshugaland. Elle s'entretient avec vous, et visiblement, les peluches aussi ont la parole parfois, puisque vous contrefaisez une autre voix pour leur donner la parole. À quel moment, Charlemagne-Palestine, parce que, en général, on abandonne ces jouets d'enfants. J'imagine qu'il y a dû avoir une tension avec vos parents quand vous cherchez à les garder.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma maman. Souvent, elle a fait tout ce qu'elle peut à jeter mes anciennes jouets des animaux. Et finalement, quand j'ai devenu mondialement connu pour ces animaux, j'ai invité ma maman en Europe. Et elle a ri. J'ai toujours dit à les gens, regarde comme j'ai fait toutes ces œuvres, c'est revanche à ma maman qui a essayé à jeter quand j'étais jeune. Elle a ri comme un fou. So, voilà. So.
Vous êtes né, Charlemagne-Palestine, en 1947, à New York.
À Brooklyn.
À Brooklyn, pour être précis. Vous n'y vivez plus maintenant, hein, mais voilà. Et vous êtes né sous différents noms, Charles Martin ou Shay Moshe Palestine. À quel moment vous devenez Charlemagne-Palestine? Vous savez que c'est très chargé en Europe, hein, Charlemagne.
Ah oui, bien sûr. Et la première fois que j'étais en Europe, un monsieur, dans le temps, c'était le musée Galliera, qui est maintenant le musée de la mode. J'ai arrivé en 73 et un petit monsieur gardien de musée Galliera, quand j'ai dit mon nom, il était déjà prévu qu'un Charlemagne va venir et il a chanté le chanson de France Gall, Sacre Charlemagne. Comme New Yorkais, je ne connais pas.
Dans mais le tous temps les enfants la connaissent ici.
Tout. Depuis, j'ai rencontré France Gall et Michel Berger dans le temps et tout. Et on a tout ri de ça parce que je suis finalement le moderne Charlemagne pour cette chanson. Mais voilà, ça arrivait vers quand j'étais vers 12 ans, que chez les Américains, Charles devenait Charlie. Et ma maman n'a pas aimé Charlie, moi non plus. Et Chaim avait un nom vraiment juif, parce que je suis juif, mais je suis juif ludique séculaire. C'était un peu trop lourd.
J'adore, ludique séculaire. Cela dit, quand on est juif, quand on s'appelle Palestine aussi, déjà, de toute façon...
Et ça aussi, qui est ma vraie nom, mais nom de diaspora. Ça, c'est le nom qu'on a pris à Odessa dans le début, vers le temps. Et ma famille a émigré d'Odessa à New York avec le nom Palestine.
Charlemagne Palestine, je voudrais vous faire entendre la voix d'un compositeur. C'est Michael Nyman, vous savez, le compositeur anglais, connu surtout du grand public pour ses musiques de films, comme par exemple celle de La Leçon de piano. Il répondait à Laura Adler, c'était en novembre 2010, quand elle lui demandait s'il était un enfant de la musique expérimentale et des travaux de Stockhausen, de Berio. Voici sa réponse.
J'aimerais bien pouvoir le penser. D'un point de vue théorique, oui, pourquoi pas. Mais en tant que compositeur, je me mets... à table ou au clavier, et je compose un petit peu comme un Beethoven ou un Monteverdi, à l'ancienne. Donc en réalité, je ne mets pas en pratique la tradition de la musique expérimentale. Et moi, je compose la musique d'une manière traditionnelle, que je critique d'ailleurs. Vous savez, la tradition du grand maître musical qui est écrit à l'ancienne.
In the sense that, you know, as Varèse kind of would have put it, you know, every frame, every second of Varèse, for instance, has
chaque
kind of imprint,
cadre,
the thumbprint
chaque seconde de Varèse est marquée de l'empreinte du compositeur. Cage était un compositeur qui semblait pouvoir abroger sa responsabilité en tant que compositeur individuel. Parfois, vous écoutez du Cage, vous dites c'est du Cage, mais parfois, il laisse les instrumentistes créer leur propre Cage dans le cadre cagéen. Moi, je ne peux pas créer de cadre musique ou de séquence musicale, fût-elle de 5 secondes. Je suis Michael Nyman, mais Michael Nyman se surprend constamment.
Un extrait de la musique du meurtre dans un jardin anglais par Michael Nyman. Vous vous surprenez souvent, Charlemagne Palestine ?
Non, pas spécialement, non.
Est-ce que vous comprenez la distinction qu'il faisait à l'instant en disant que finalement il se considérait, il s'apercevait qu'il appartenait sans doute à une tradition un peu classique de la
oui,
musique ?
Oui, je connais Michael depuis, même avant... Je crois qu'il était même avant, il a commencé à voir le style de English minimalism qu'il a devenu l'exemple ou le symbole.
Le parangon.
Oui, oui. J'ai à lui rencontré assez tôt à New York. Mais bon, il y a beaucoup de différentes influences et tout. J'étais là aussi pour une prochaine génération. Mais de début, la première chose que vous avez... Four Manifestations on Six Elements. Ça, c'était une œuvre que j'ai aimée, mais après j'ai fait ça, j'ai voulu un peu détruire et continuer dans une aventure. J'ai fait ça plusieurs fois pendant quelques années, et après il y a eu toute une école, si on peut dire, et c'était le moment à continuer dans une autre direction où j'ai actuellement commencé a fait des musiques plus en plus violentes après. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, par exemple, Thurston Moore et Glenn Branca, qui étaient très jeunes à ce moment. Et allaient à mes concerts à New York dans mon atelier. où j'ai joué ma propre Bösendorfer. Et j'ai commencé à une musique assez violente qui a un peu prédaté le, finalement le punk et le, qui eux étaient en train à construire aussi. So, j'ai devenu pour eux, pas ma faute, ni ma désir, une sorte d'allié. Voilà. Mais pour moi, je vais voir presque 70 ans que je cherche toujours autre chose. I mean, à le moment que j'ai fait, je cherche autre. Mais hier, quand j'ai joué, on entend que c'est le même monsieur, mais il a fait beaucoup de chemins depuis. Il cherche des autres destinations.
Ou d'autres langues, hein, puisque c'est ce que vous avez dit à la fin du concert. Hein, le piano et l'orgue ne sont pas morts. Et moi et quelques autres musiciens, on essaye de trouver une sorte de langage. Et le langage, ça évolue. Mais on va l'entendre dans un extrait de musique plus récente. Mais puisque vous parlez de Thurston Moore, eh bien allons-y. Puisque c'est le son que vous vouliez proposer, Vincent Théval, le rédacteur en chef du magazine Magic. Vous avez choisi donc Thurston Moore aujourd'hui.
L'un de sélectionner des extraits de morceaux sinueux et de couper, surtout sur des morceaux comme ça qui se déploient sur 6 à 12 minutes. Ce qu'on vient d'entendre est tiré de Rock'n'Roll Consciousness, le nouvel album de l'américain Thurston Moore, et cette conscience rock'n'roll, c'est un titre mi-amusé, mi-sérieux qui fait référence à la pratique de la méditation, un outil pour exister et coexister, dit Thurston Moore dans l'entretien fleuve qu'il nous a accordé. Ma méditation, ce que j'aime, ce qui me permet de me connecter au monde, c'est le rock'n'roll. Et depuis le début des années 80, c'est à des mondes très différents que s'est connecté celui qui fut pendant 30 ans le guitariste et chanteur de Sonic Youth, groupe majeur dans l'histoire du rock, notamment par sa capacité à faire dialoguer le post-punk avec les franges les plus expérimentales de la musique contemporaine.
Et avec l'art contemporain.
Et avec l'art contemporain.
La souvent, poésie, les couvertures de Sonic Youth étaient réalisées par beaucoup d'artistes.
Mike Kelly notamment, beaucoup d'autres. Et ce dialogue, il s'est tenu au sein de leurs albums, en tout cas leurs pièces les plus évidentes et les plus faciles d'accès, mais le groupe a souvent prolongé le dialogue sur des enregistrements plus complexes, et notamment sur un double album intitulé Goodbye 20th Century, où Sonic Youth interprétait des pièces de Steve Reich, Christian Wolff ou encore John Cage. Thank you. Les paysages arides de John Cage, revisité par Sonic Youth en 1999. Des textures, un sens de la suspension qui ont nourri les chansons de Sonic Youth comme celles de Thurston Moore. Sur son dernier album, c'est comme une sorte de sous-texte ou de réminiscence au fil de morceaux qui regardent eux plutôt du côté du rock psychédélique, voire du folk, dont il livre une version très personnelle, impressionniste et ouverte à l'improvisation. C'est une musique presque apaisée, simplifiée, épurée, qui porte en elle la marque de 3 décennies d'expérimentation, de collaboration, d'échange avec la poésie, le cinéma, le jazz, le rock et la musique contemporaine. Quelque chose comme un disque de vieux sages. Voilà un extrait de Rock'n'Roll Consciousness, le dernier album de Thurston Moore qui est édité chez Caroline, et Thurston Moore qu'on peut retrouver donc en couverture de votre magazine Vincent Théval Magic, c'est le numéro 204 de mai-juin qu'on peut retrouver en kiosque. Thurston Moore, Charlemagne Palestine, vous le connaissez, vous avez enregistré quelque chose ensemble il y a quelques
années ?
Oui,
on était invité au BBC Londres il y a 2-3 ans et on a fait une mélange, il est venu avec une guitare assez spéciale et moi j'ai joué beaucoup de différents instruments qui étaient dans le studio là, des orgues électriques, quelques-unes très anciennes, or accordées et tout ça, c'était intéressant, on a fait une sorte de spontaneous combustion ensemble et voilà.
Ben vous parlez d'instruments spéciaux, on va revenir à votre musique et justement un piano particulier avec cet extrait, c'était une pièce enregistrée en 2005 à Padoue, Charlemagne Palestine. Thank you.
Voilà, un extrait de Triton, octave 5. Ça, c'était l'album From Étude to Cataclysm. C'est très beau, hein. Des études au cataclysme, ça vous ressemble tout à fait. Charlemagne Palestine, c'était enregistré en 2005 à Padoue. Et c'était l'occasion d'une rencontre avec un instrument qui est assez rare, puisque c'est un piano qui est fait par un certain Luigi Borgato. En quoi est-ce qu'il compte ? C'est un double piano ?
C'est un double piano, en deux étages. Il y a un étage en bas, c'est des cordes très longues, c'est les notes très bas, et vous jouez ça avec les pieds. Et l'autre, c'est un piano normal, où vous jouez avec les doigts. Et vous pouvez jouer les deux ensemble. Et comme j'étais 13 ans à New York, j'ai commencé à jouer une carillon à côté du musée d'art moderne en 53e rue et 5e avenue. J'ai joué tous les jours pour 7 ans. Je sais comment on a joué comme un organiste classique. Mmh. En fait, je peux jouer avec mes pieds et mes doigts en même temps.
Charlemagne Palestine, puisque vous évoquez cette expérience qui a été très importante, hein, de carillonneur, c'était à l'église épiscopale Saint-Thomas de New York. Déjà, comment est-ce qu'on devient carillonneur dans une église quand on est juif et qu'on va plutôt à la synagogue, hein? C'est là que vous avez appris à chanter. Et puis surtout, quel impact a pu avoir le rapport avec les cloches? Parce que je crois que les cloches avec l'orgue, c'est peut-être l'instrument qui produit le son le plus fort, le plus puissant. J'imagine que la proximité avec ces fréquences très intenses, ça a dû avoir un impact très fort sur le jeune homme que vous étiez.
Oui, et aussi toujours autour de la voix de Dieu. Parce que ce sont dans les tours, même si ce sont des chrétiennes et pas des juifs, moi j'étais toujours attracté à l'idée qu'on fait une musique autour des divinités ou des dieux ou des êtres ou des... Je ne sais pas, ça c'est... Et la musique pour cloche était inspirée par la musique de gamelan de Java et Bali, qui est aussi une musique sacrée. Ça, c'est toujours m'intéressé, la connexion à faire une musique sacrée.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Et Charlemagne Palestine, d'habitude, quand vous vous produisez sur scène, il y a toujours un petit verre de cognac ou de whisky. Je ne sais pas ce que vous buvez d'ailleurs, juste avant le concert.
Well, actuellement, il y a deux histoires pour ça. Le premier, que j'étais un enfant toujours hyperactif, et mon père et mes oncles m'ont donné whisky d'abord. Déjà depuis j'étais 2-3 ans. Mais autre, quand j'étais à 15 ans, j'ai rencontré Stravinsky. Et lui, quand il a dirigé ses propres œuvres pour Columbia Records, il a toujours eu une verre de Johnny Walker. Et ça m'a impressionné aussi. J'ai après fait de ma façon, fait plus comme un rituel. Parfois même, je joue les verres avec ma doigt ou je clique comme des carillons. Mais si c'était bien pour Stravinsky, c'est bien pour moi.
Bah, aujourd'hui, dans le studio, en tout cas, on a des verres d'eau à côté de nous.
Oui, non, mais maintenant, supposément, c'est le soir. Voilà. So, dans le décalage, quand je vais écouter cette émission, je vais boire une whisky à la même temps.
Bah, en tout cas, pour Mario Betkovic, le musicien qui vous écoute depuis le début de l'émission, qui est à vos côtés, ce sera juste avec un verre d'eau. Mario Betkovic, accordéoniste, compositeur, qui vient de publier un premier disque solo sur le label Invada, un label qui est mené notamment par Jeff Barrow, un des musiciens du groupe Portishead, c'est un musicien anglais. Album solo, donc, en noir et blanc, d'une solitude à peu près aussi radicale qu'elle est riche de résonance. Vous allez voir ça, on va l'écouter en direct avec ce qu'il appelle son singe, son accordéon. Il était très amusé par tout ce que vous avez raconté, Charlemagne Palestine. Mario Betkovic retrouve l'accordéon et ce sera Quatere. Thank you. Mario Batkovic dans les studios de France Culture. Mario Batkovic, je précise qu'on pourra vous entendre en concert le 24 juin prochain du côté de Bosse, du Bosse Festival, c'est en Belgique, le 15 juillet au Dour Festival, toujours chez nos voisins dans toute l'Europe pendant tout l'été. Puis vous serez le 17 septembre à Orléans pour ceux qui veulent se reporter à votre disque Mario Batkovic. Je renvoie à l'album solo qui est paru sous le label Invada Records est distribué par Piace. Un mot, Mario Batkovic, sur ces titres Restrictus, Quatere, Eloquence, Machina, Somnium. Le fait de choisir des titres en latin, c'est une façon de vous inscrire dans un socle, allez, on va dire européen ou dans le langage des sciences?
Non,
en fait, c'est très simple.
Il y a un piece d'un soundtrack.
Donc une fois j'ai écrit une musique de film. Et dans la cour où j'habitais à ce moment, enfin dans le jardin de là où j'habitais à ce moment-là, il y avait un arbre très très beau. Et je l'adorais, mais on l'a coupé malheureusement.
Ce drevo zove buche na njemačkom.
Je pense que c'était un être.
Kad su mi oni to osjekli, ja sam onda radio ta baš na soundtrack, onda sam htio tu muziku da posvetim drvetu koje su mi osjekli.
Et du coup, à l'époque où je réalisais cette musique de film, j'ai décidé de la dédier à cet arbre.
Et onda sam mislio da ne mogu da nazvam jedan soundtrack buche, zato sam otišao na Google Translate. Et tamo sam ono upisao buche i izašao je fagus.
Je
fagus
je zvučilo dobro, tako da... Décemment appeler quand même cette musique de film buche, ce qui est le nom de cet arbre en allemand, c'est pas très joli. Donc j'ai cherché sur Google comment ça se disait en latin, c'était beaucoup plus esthétique.
Titule u biti nemaju nikakvog smisla kod mene.
I na latinsku su samo zato što dobro zvuče. Chez moi, ces titres ne signifient jamais rien, c'est uniquement...
I nemam pojma da li su korektni.
Sur la base de la sonorité du mot, et je ne sais même pas si je les écris bien en latin d'ailleurs.
Znači, to je samo Google Translate. Za mene moje stvari, ja bih nazvao 1, 2, 3, 4, 5, 6.
J'utilise juste Google Translate. Et pour, en ce qui me concerne, je pourrais aussi bien appeler mes chansons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça n'a pas d'importance.
Normalna stvar, gravis, znači, dubina, groblje, kvatere.
Alors, bien entendu,
zemljotres.
Gravis, ça veut dire la profondeur, la terre, la tombe. Kvatere, ça veut dire le tremblement de terre. Mais moi, en fait, je n'y réfléchis pas vraiment, ça vient spontanément.
Gravis, par exemple, Mario Batkovic, c'est une pièce où on peut entendre des graves, comme on en entend rarement dans l'accordéon. On entend d'ailleurs dans votre disque toutes les pièces, et on l'entendait ici aussi, toutes les pièces de l'accordéon qui sonnent, c'est-à-dire qu'il y a les sons du clavier, les sons du souffle. En fait, c'est souvent des sons dont les accordéonistes essaient peut-être de se séparer pour n'entendre que la musique. Mais vous, ce sont tous les sons de vos instruments qui vous intéressent.
Pas d'un moment l'histoire, mais samo ta stvar gravis.
Bien entendu.
C'est le mi qui est
le mi,
le, voilà. C'est le mi, voilà.
Le mi qui est le plus profond.
D'accord.
Et en fait, j'ai fait ça en guise de protestation.
En fait, c'était un jeu de ma part que de le faire en do pour avoir toujours ces deux tons qui se répondent.
Primitif.
En fait, c'est assez primitif.
Mais si on en revient, allez pas au primitif, mais en tout cas à l'enfance, Mario Batkovic, vous m'expliquez que vous avez beaucoup bougé depuis votre enfance. Vous êtes né en Bosnie en 1980, vous êtes arrivé en Suisse. 1990 à l'âge de 11 ans, donc si je calcule bien, c'est au début des guerres de l'ex-Yougoslavie, puisque c'était 91. Et la musique, il n'y en avait pas chez vous, en fait. Vos parents n'achetaient pas de disques. Si vous vouliez faire de la musique, il fallait que vous la fassiez vous-même.
Je
n'avais pas les mêmes possibilités d'avoir accès à la musique que les autres personnes. Il n'y avait rien à la maison, à part cet accordéon qui s'est trouvé dans mon entourage par hasard. À l'époque, ça aurait pu être aussi bien une guitare, un violon. Et c'était la seule manière que j'avais de consommer de la musique, cet accordéon. Et en fait, j'ai continué à fonctionner comme ça pendant toute ma vie. Et j'ai vu beaucoup de sociétés très différentes dans ma vie. Et à chaque fois, cette société pensait que c'était eux qui avaient raison, qu'il fallait écouter uniquement cette sorte de musique, que seulement ça, c'était de qualité et pas le reste. Il fallait vivre de cette manière, pas d'une autre. Et moi, je refuse cette manière de penser, c'est pourquoi je refuse de consommer de la musique, c'est par opposition. C'était ma recette de survie.
Et qui fonctionne tout à fait. Mario Betkovitch, je voudrais vous faire entendre la voix d'une autre accordéoniste que peut-être vous connaissez. C'est Pauline Oliveros, accordéoniste et compositrice américaine. Elle est décédée en novembre 2016. Écoutez-la ici, elle évoque son rapport à l'accordéon et à l'écoute.
Of course, I've been playing the accordion since I was 9 years old, which is about 69 years worth. So that's fine.
Je joue de l'accordéon depuis que j'ai 9 ans et j'en ai bientôt 79. Je peux dire que je connais cet instrument, c'est comme un morceau de moi-même. On s'entend bien, on est presque devenus inséparables. Et puis il y a une autre chose, au moment où l'on joue, le son modèle, forme le geste, et le geste modèle le son. Et c'est comme un flux, une énergie qui passe dans le corps d'un bras à l'autre, d'une main à l'autre. Pour moi, jouer, c'est suivre une énergie. Je tends mon écoute vers ce qui se passe, mais c'est une écoute englobante. Tout ce que je perçois au moment où je joue entre là. Le mieux qui puisse m'arriver, c'est de me défaire de moi-même, de mes idées, de mon langage conscient, de mon jugement, de mes facultés, de connaissances, d'analyse, de critique. Finalement, tout ce qui entre dans le jeu, ou tout ce qui entre en jeu, dans ce que j'appellerais l'écoute quantique. C'est un état d'esprit, une forme de disponibilité, d'ouverture, qui favorise l'imagination et qui permet au son de naître et de se développer sans a priori, sans jugement. Car le jeu, finalement, va beaucoup plus vite que l'analyse des choses.
Voilà, Pauline Oliveros, qui était au micro d'Anne Montaron pour France Musique, c'était en août 2010. Mario Betkovitch, vous l'avez croisé, cette musicienne, cette compositrice. Vous comprenez ce qu'elle entend ici par la différence entre l'entendu et l'écouter et le fait que la musique, elle va plus vite que l'analyse et que donc il faut pas chercher à analyser pendant qu'on est en train de faire. Traduction de Claude Villon.
Oui, je suis
tout à fait d'accord.
Normalna stvar za mene, ja ne gledam tako spiritualnu muziku ili ne doživljavam je se tako.
Ne vis pas la musique de manière si spirituelle que ça, je ne me considère pas comme quelqu'un de spirituel. Mais je dois bien reconnaître que au moment où pendant que je joue, j'ai l'impression d'être le serviteur d'une chose bien plus grande que moi. Et le moment où je joue, en ce moment même, eh bien, c'est la chose la plus importante de ma vie. Rien, plus rien d'autre n'a d'importance. Et c'est cette capacité de la musique d'arrêter le temps. C'est la seule chose que nous consommons sans la moindre raison rationnelle. On ne sait même pas pourquoi on a ce besoin d'écouter de la musique. Ça nous fait du bien au cerveau, mais pourquoi? Et aujourd'hui encore, mon moteur, ce qui me fait avancer, à ce point que je suis capable de renoncer à beaucoup de choses dans ma vie, juste pour la beauté un son. Et je serais même prête à donner ma vie pour
ça. Ça allait
peut-être l'air un petit peu pathétique, trop dramatique, mais c'est vrai.
Non fake.
Je ne fais pas semblant.
Vous ne faites pas semblant et vous engagez à tout point de vue, Mario Betkovic. On l'entend quand on vous écoute, mais aussi quand on vous regarde, puisque c'est extrêmement vivant de vous voir jouer. D'ailleurs, je vous propose d'aller retrouver l'instrument pour une autre performance, puisque vous y teniez, qu'on puisse entendre. Cette fois-ci, ce sera Restrictus.
Thank you.
Mario Batkovic dans les studios de France Culture. Je signale qu'on pourra vous entendre, en fait il y a beaucoup de concerts, on pourra vous entendre en France. Vous serez le 15 septembre à Tulle pour les nuits de Nacre, le 16 septembre à Orléans et puis le 22 octobre au Bouffe du Nord à Paris pour le festival Worldstock. Il y aura aussi d'autres dates fin novembre à Biarritz et à Pau. Et puis pour le disque, je renvoie au disque qui est paru, Mario Batkovic solo sous le label Invada Records. Mario Batkovic, je vous voyais pas toujours très heureux. Vous n'êtes jamais satisfait quand la musique s'achève, il ne faut pas être trop content de soi.
Je pense que le jour où je serai satisfait de ce que je fais, eh bien, il sera temps pour moi de quitter ce monde. C'est un objectif que je n'atteindrai jamais dans ma vie. Ma vie est bien trop courte pour que j'arrive à trouver, à reproduire tous ces sons qui sont dans ma tête pour les réaliser. Et quand je joue, à la fin, tout ce que j'entends, c'est que j'aurais pu faire encore mieux, toujours mieux. J'entends ce que je dois encore développer dans ma musique. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers et me dire « Ah là, c'était chouette, j'ai réussi. » Parce que du coup, ça serait la fin de l'art. La fin de tout art, c'est quand on arrête de se développer.
Quelque chose qui se développe aussi, en tout cas sur vous, puisqu'il me semble qu'il y a eu des évolutions en fonction des photos que j'ai pu voir de vous, Mario Batkovic. Ce sont les tatouages que vous avez. Et il y en a deux sur les avant-bras. Alors il y en a un où je comprends, c'est un accordéon, une jeune fille qui tient un accordéon. Mais l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente, Mario Batkovic.
Ce sont des blessures volontaires, ou des cicatrices volontaires, pour ainsi dire.
Ça représente mon
village, en fait, qui n'existe plus dans la réalité. C'est ce que j'appelle mon Hawaï en Bosnie. Comme je l'ai dit, ce sont des cicatrices volontaires. Mais ma musique reflète également ma vie. Et en fait, ma musique reflète bien plus ma vie que mes tatouages ou la manière dont je m'habille, dont je marche.
Alors, puisqu'on parle de son et auquel vous êtes attaché, hein, vous avez même dit tout à l'heure que vous pourriez mourir pour un beau son, on a voulu retrouver dans la discothèque de Radio France quelques disques un peu rares, parce que vous savez, on a une très grosse collection, c'est une des plus grandes collections d'Europe. On a voulu trouver quelques disques d'accordéon qui peut-être pourraient vous surprendre ou vous intéresser. Alors évidemment, il y avait beaucoup de choses italiennes, il y avait beaucoup de bourrées auvergnates, bon, mais ça, vous les connaissez peut-être déjà. Et on est tombé sur des choses, en revanche, un petit peu plus rares. Il y avait le quatuor chevalier, qui était un quatuor d'accordéon. Ils avaient fait concevoir, visiblement, différents accordéons pour fonctionner comme un quatuor à cordes, hein, c'est-à-dire qu'il y en avait qui faisaient les graves, d'autres les aigus, et puis il y avait même un alto, un instrument intermédiaire. Et il y a cet autre disque-là, La musique est dans la rue, que je voudrais vous faire voir, qui est un disque assez singulier, c'est un collectage dans les rues de Paris et dans ses banlieues. C'était enregistré au Nagra entre mai et novembre 1974 par Gérard Doll. Alors je vous lis les notes qu'il y a derrière le disque, c'est vraiment un disque étonnant. Le disque que vous avez en main représente plus de 6 mois de collectage dans les rues de Paris et toute une transition de présence musicale dans la ville. Et l'auteur d'évoquer le show business, ce cancer économique de la musique vécue. Non, monsieur Haussmann, non, messieurs les promoteurs, vous n'avez rien détruit, votre vandalisme est caduque. Voilà, vous voyez, il y a un programme politique derrière ce disque et derrière le fait de s'intéresser à la musique vivante, la musique qui est jouée dans la rue. Alors on entend un couloir du métro, station Belleville, boulevard du Montparnasse, rue Le Pic, la Goutte d'Or, dans le couloir du métro, station Pyrénées, et le 28 mai 1974 à 15h.
Toutes les herbes de Provence, mesdames, allons-y.
Voyez le beau croissant de la source, mesdames.
250
grammes. Et 1,60 la boîte de croissant de la source, mesdames. 1,60 la
boîte. Allons-y, le champignon de Paris.
Thank you.
extrait de ce disque, La musique est dans la rue. Et Mario Betkovic, vous me disiez, ah, ça c'est super, c'est le genre de musique que je peux jouer.
Meni je to definitivno super, je to iskreno.
Bien entendu, c'est super parce que c'est sincère. Il n'y a rien de joué, de faux dedans.
Koliko danas kad bi to neko želio da snima, koliko bi
naporno bilo. Aujourd'hui, si quelqu'un voulait essayer d'enregistrer quelque chose de ce genre, eh bien, il serait extrêmement dur de rassembler tous ces gens dans un espèce de studio pour reproduire ce son du marché, ce son de la rue. Et en fait, la réponse est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. Il s'agit de la sincérité. Il faut juste sortir dans la rue et écouter le monde. Et moi, ça me plaît, même si ce n'est pas mon style. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment de style.
Merci beaucoup, Mario Betkovic, d'être venu nous rendre visite et puis d'avoir joué dans les studios ici en compagnie de Charlemagne Palestine. Je rappelle, Mario Betkovic, la sortie de votre album solo chez Invada Records. Pour les différents concerts, je renvoie à notre site internet où toutes les dates seront données. Merci beaucoup à Chloé Billon d'avoir assuré la traduction de vos propos. Charlemagne Palestine, l'exposition personnelle court jusqu'au 19 novembre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Merci à Sandrine Adas pour son aide. Et puis je signale qu'il y aura aussi La Nuit Blanche. Ce sera le 7 octobre avec une performance de Charlemagne Palestine. Merci Vincent Théval d'être venu nous parler.
Merci
de Thurston Moore. C'était complètement à propos aujourd'hui. On peut vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel Instant Magic. Et puis en attendant, je vous renvoie les auditeurs à votre excellente revue Magic qui est dans tous les kiosques. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France, Emmanuela Dubessy de l'INA, Continent Musique. On vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, et elle est très importante. Olivier Guérin, pas moins important, à la réalisation, la technique ce soir, Juliette Delperroux et Nicolas Slimani, toute la programmation musicale. Et les dates de concert sont à retrouver à la page de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute, le podcast. Dans quelques instants, vous retrouvez Mauvais Genre et François Angelier. Très bonne soirée à tous.